sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Canal Académie retransmet ici la cérémonie officielle sous la coupole de l'Académie des sciences, cérémonie qui se tenait le 25 janvier 2011 pour la remise de la deuxième partie des Grands Prix et des prix thématiques. Retrouvez dans quelques instants la lecture du palmarès des Olympiades nationales et internationales de mathématiques et de chimie. Les Olympiades sont des compétitions organisées par les sociétés savantes ouvertes aux élèves de première et au terminale. Les lauréats sont présentés par le professeur Alain Carpentier, président de l'Académie des sciences, et les prix sont remis en personne par Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse. Puis dans un second temps, Jean-François Bach, Catherine Bréchignac, toutes deux secrétaires perpétuelles de l'Académie des sciences, et Philippe Taquet, membre de l'Académie des sciences, énonceront les travaux des lauréats des Grands Prix et des prix thématiques. Ils sont 29 au total pour cette deuxième remise de prix. Je précise d'ailleurs que vous pouvez retrouver la première vague de lauréats 2010 sur le site de Canal Académie. Enfin, comme le veut la tradition, la cérémonie de remise de prix se conclut par le discours d'un académicien sur un sujet qui lui est cher. Vous retrouverez ici Christian Amator, chimiste et académicien. Il évoque la science, la société et l'éducation. Pour l'heure, nous retrouvons le président de l'Académie des sciences, Alain Carpentier. Il énonce tout d'abord les liens entre l'Académie des sciences et le ministère de la Recherche, avant de réaliser une présentation toute particulière de Michael Attia. Michael Attia, grand mathématicien libano-écossais, est associé étranger à l'Académie des sciences. Il est le lauréat de la Grande Médaille 2010, plus haute distinction attribuée par l'Académie. Michael Attia répond en français et évoque en particulier les liens entre l'Angleterre et la France. On retrouve tout de suite le professeur Alain Carpentier.
Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, messieurs les sénateurs, monsieur le chancelier, madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, mesdames, messieurs les académiciens. Votre présence, madame la ministre, à cette cérémonie au cours de laquelle nous remettons la plus prestigieuse de nos distinctions et les prix que nous décernons chaque année, atteste, s'il en était besoin, l'attention que vous portez aux initiatives susceptibles de promouvoir la recherche et la récompenser. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir pris sur un agenda très chargé l'heure que vous pourrez passer parmi nous. Je voudrais saisir cette occasion pour dire quelques mots sur les relations qui unissent votre ministère et notre académie. Vous savez combien notre compagnie est jalouse de son indépendance et de sa liberté de parole, qui sont garantes de l'objectivité des avis et des rapports que nous publions. J'ai usé de ce privilège il y a 15 jours lorsque, recevant le ministre de l'Éducation nationale, je lui brossais malheureusement un tableau sombre de l'état actuel de l'éducation de notre pays. Et j'en abusais sans doute en proposant l'idée iconoclaste de donner aux lycéens et collèges ce que vous avez donné aux universités, l'autonomie. C'était une manière indirecte de rendre hommage à votre action. L'autonomie des universités, réforme essentielle, tant attendue, tant décriée et différée tant de fois dans le passé. Vous l'avez fait et cela restera votre grande œuvre. Certes, vous bénéficiez du soutien du gouvernement et du président de la République. Certes, tout n'est pas parfait et des ajustements restent à faire, mais les résultats sont là. 90% des universités sont aujourd'hui autonomes et responsables de leur excellence et de leur destin. Peu de gens savent combien ce fut difficile et même périlleux. Certains d'entre nous ici peuvent en témoigner qui étaient membres du Haut Conseil pour la science et la technologie que vous abritiez dans votre ministère. Ils ont vu les CRS aux grilles d'accès à votre bâtiment, entendu les échos de vos rencontres avec les diverses représentations professionnelles et étudiantes et vécu les oppositions parfois violentes que vous deviez affronter. Vous avez imposé la sérénité et l'efficacité grâce à trois qualités qui vous sont propres : l'écoute, le courage, la persévérance. La persévérance. Des 15 ministres qui se sont succédés en 20 ans, vous êtes resté à ce poste plus longtemps que tous, 44 mois contre 13 en moyenne pour les autres ministres, et ce n'est pas fini, car il reste à parachever l'œuvre, à corriger les dérives qui immanquablement affectent toute réorganisation ou structure nouvelle. Après ces éloges sous cette coupole que connut Beaumarchais, vous seriez sans doute bien surprise si je n'ajoutais quelques réserves. Les chercheurs, Madame la Ministre, se plaignent de la multiplication des procédures administratives d'évaluation de la recherche et d'appel à projets. Nous pensions naïvement que la mise en place de deux agences nouvelles simplifierait les procédures, supprimerait les organisations antérieures et que très vite serait imposé un dossier unique, partout accepté, d'ailleurs prévu dans la loi. En réalité, nos différentes institutions, CNRS, INSERM, CEA, j'en passe, ont pour la plupart gardé jalousement leurs propres formulaires qui doivent, je cite, être remplis complètement et soigneusement sous peine d'être rejetés. Formulaires auxquels s'ajoutent ceux des instances européennes et ceux des fondations privées auxquels nous devons faire appel pour compléter nos ressources. Résultat, les chefs de laboratoire et les chefs d'équipe passent la moitié de leur temps à remplir les formulaires au lieu de chercher, au nom du principe de protection. De protection du temps des chercheurs. Ne peut-on élaborer un dossier unique pour une évaluation tous les 4 ans et un autre pour des demandes de financement tous les 2 ans ? Dans un monde où tout s'accélère, la recherche a besoin de temps plus que de tampons, de confiance plus que de défiance, de liberté plus que de contrôle. Ces quelques remarques, Madame la Ministre, n'atténuent en rien la sincérité de l'hommage que nous voulions rendre à votre action, à vos collaborateurs et à votre personne. Demain comme hier, vous pourrez compter sur l'Académie des sciences pour répondre aux sollicitations que vous pourrez formuler. Sir Michael Acker, vous n'êtes pas un inconnu pour notre compagnie puisque vous avez été nommé membre à titre étranger en 1978, honorant ainsi vos travaux qui font de vous l'un des plus grands mathématiciens de ces dernières décennies. La grande médaille que nous allons vous remettre est exceptionnellement décernée à un membre de notre compagnie. C'est dire la considération que nous vous portons. Permettez que je vous présente. Michael Francis Attia est un mathématicien d'origine écossaise et libanaise. Après des études primaires et secondaires en Égypte, puis en Angleterre, il fait ses études supérieures à Trinity College, à Cambridge, où il passe en 1955 une thèse de doctorat remarquée, intitulée « Quelques applications des méthodes topologiques à la géométrie algébrique ». Élu fellow de la Royal Society à l'âge de 33 ans, il fut nommé successivement titulaire de la Savilian Chair of Geometry à Oxford, puis professeur à l'Institute for Advanced Study à Princeton, enfin Royal Society Research Professor à Oxford, en 1972. L'œuvre de Michael Francis Attia est tout simplement d'une ampleur considérable. Elle éclaire tout un pan de l'évolution des mathématiques des 50 dernières années. D'abord dans son premier domaine de prédilection, la géométrie algébrique. Au début des années 50, il hésitait encore entre les mathématiques, l'architecture et l'archéologie, mais le Swiss Prize qui lui fut décerné en 1954 l'inclina définitivement vers les mathématiques. Michael Attia est l'auteur de la K-théorie topologique en collaboration avec Hirzebruch, puis la théorie de l'indice avec son résultat sans doute le plus célèbre, le théorème d'Attia-Singer. La première démonstration de ce théorème en fut annoncée en 1963. Elle donne une formule cohomologique pour l'indice d'un opérateur elliptique sur une variété différentielle répondant ainsi à une question posée en 1959 par le mathématicien Israël Gelfand. C'est pour ses travaux que Michael Atia reçut en 1966 la médaille Field. Le théorème de l'indice d'Atia-Singer fut à l'origine d'un mouvement unificateur de plusieurs résultats et démonstrations mathématiques par Michael Atia lui-même et divers auteurs, en même temps qu'étaient montrés les liens profonds de ce théorème avec des questions posées par la physique théorique. C'était l'amorce de la deuxième partie de l'œuvre de Michael Atia, propagandiste inlassable d'un rapprochement renouvelé entre mathématiques et physique. Je cite « The mathematical problems that have been solved or techniques that have arisen out of physics have been the lifeblood of mathematics ». Il considère la physique comme terrain d'expérience des mathématiques à venir, impose la problématique de la théorie des cordes chez les mathématiciens et explique les idées d'Edward Witten. Mais Michael Atia n'est pas seulement un mathématicien hors pair, il est à l'origine de plusieurs organisations scientifiques au Royaume-Uni et dans le monde. Institut Isaac Newton pour les sciences mathématiques à Cambridge, présidence active de Royal Society de 90 à 95, Association des académies européennes, dont il fut avec Paul Germain un ardent défenseur, Société européenne de mathématiques, Inter-Academy Panel on International Issues, la liste n'est pas exhaustive. Dans l'impossibilité de citer toutes les académies dont Michael Atia est membre et tous les doctorats honoris causa qui lui furent attribués, je me bornerai à rappeler qu'en 1988, il s'est vu décerner par la Royal Society, sa plus ancienne distinction, la médaille Copley, fondée en 1713, et qu'il a reçu avec Isadora Singer le prestigieux prix Abel en 2004 pour le théorème qui porte leur nom. Nous voici éclairés, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, sur le mathématicien, le savant illustre, mais l'homme lui-même, quel est-il ? J'ai interrogé quelques-uns de ses amis ou collègues, espérant trouver sous la tunique écarlate quelques ombres qui le feraient plus humain. Ma démarche fut vaine. Il n'a pas de défaut. Mais voyons, n'a-t-il pas la tête dans les nuages, quelques distractions dont sont coutumiers les grands hommes de science ? Mais non. C'est au contraire un homme d'esprit pratique qui ne dédaigne pas d'utiliser ses mains autant que son cerveau. L'un de ses amis se souvient d'une panne de voiture dans un endroit perdu au Mexique. Voiture immobilisée, Michael descend, écarte les badauds avec autorité, retrousse ses manches et répare la voiture. Connaissez-vous beaucoup de mathématiciens capables de réparer une voiture à midi en plein soleil, en plein désert ? Mais alors, demandai-je, et sa vie affective ? Oui, il est très attaché à sa famille, qui compose son épouse Lily, deux fils et trois petits-enfants auxquels il n'enseigne pas les mathématiques. Il a une seconde passion, sa maison de campagne près d'Edinburgh, où il cultive et taille des arbres. Tiens, la taille des arbres, n'est-ce pas un moyen déguisé de revenir à la géométrie et par elle à l'algèbre et par lui à l'indice d'Atia-Singer ? La boucle est fermée. Jean-Michel Bismuth et Jean Salençon ont composé la partie scientifique de cet hommage. Ils m'ont conseillé de terminer par la citation suivante. L'algèbre est une offre faite par le diable aux mathématiciens. Le diable dit « C'est une merveilleuse machine qui répondra à toutes vos questions. Tout ce que vous devez faire en échange est de me donner votre âme. » Je ne crois pas un seul mot de cette histoire. En réalité, renseignement pris au plus haut lieu, c'est Dieu qui a donné l'algèbre aux mathématiciens pour effrayer le diable, qui ne pouvait rien y comprendre. Et il leur a fait don sans rien demander en échange, sinon de nous donner de temps à autre des êtres d'exception comme Michael Francis Atia. Merci.
Monsieur le Président de l'Académie des sciences,
Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur tout particulier pour moi de recevoir aujourd'hui la grande médaille de l'Académie des sciences. Je suis membre associé étranger de votre Académie depuis près de 30 ans. La dernière séance à laquelle j'avais participé s'était tenue en 1986. J'y avais alors donné la conférence Humphrey Davy de la Royal Society. Je suis très heureux de me retrouver ainsi parmi vous. Cette médaille est pour moi le symbole des liens étroits qui m'unissent à la communauté scientifique française, passée et présente. J'étais un admirateur et un ami d'Henri Cartan, un grand mathématicien et un grand homme. Et j'étais influencé par l'un de ses étudiants, qui est aussi mon contemporain, Jean-Pierre Serre. Dans les générations suivantes, j'ai eu également des liens proches et chaleureux avec Alan Kohn et Jean-Michel Bismuth. Dans ma jeunesse, j'étais associé à la personnalité controversée de Nicolas Bourbaki, qui n'est probablement jamais devenu membre de votre académie. Il s'agit là des continuateurs de la grande tradition mathématique française, dans la lignée de Fermat, Laplace, Galois et Poincaré. Au cours de ces dernières années, et avec quel éclat, les conjectures historiques formulées par Fermat et Poincaré, touchant à la théorie des nombres et à la géométrie, ont été résolues. Le caractère international des mathématiques a été souligné par le fait que la solution est due à un mathématicien britannique, Andrew Wiles, et un mathématicien russe, Grigori Perelman. Et aussi parce que des prix importants ont été institués pour leur solution par des personnes d'origine d'Allemagne et des États-Unis. J'étais précisément à Paris en mai dernier pour la rencontre organisée par l'Institut Clé, dont l'objet était de célébrer la démonstration de la conjecture de Poincaré. Cette rencontre se tenait à l'Institut de même nom, ce qui prouve une fois de plus la permanence des idées proposées par Poincaré. La fascinante interaction dont nous sommes témoins aujourd'hui entre les idées venant des mathématiques et de la physique en est une autre illustration. L'Académie des sciences et la Royal Society de Londres ont été établies au XVIIIe siècle dans la même décade, et tous deux ont survécu et se sont épanouis en dépit des bouleversements politiques qu'a connu l'Europe dans les siècles qui ont suivi. La cordialité de leur relation fut soulignée par la visite rendue à Paris par Humphrey Davy à ses collègues français pendant les guerres napoléoniennes. Je doute que nous soyons restés aussi civilisés que pouvaient l'être nos prédécesseurs il y a 200 ans. Peut-être le respect pour la science dont faisaient preuve les dirigeants politiques tirait-il sa source de l'intérêt personnel de Napoléon pour les mathématiques, au point qu'un théorème porte même son nom. Alors que j'étais président de la Royal Society, il y a 20 ans de cela, les liens entre nos académies ont été renforcés dans leur action en Europe, dans le monde. Ceci a permis à la communauté scientifique de peser de tout son poids dans le débat sur les enjeux essentiels qui représentent les émissions de carbone et le changement climatique. Vous le savez peut-être, mes origines sont à la fois écossaises et libanaises, et la France a eu d'étroites relations avec l'Écosse et le Liban. C'est l'Écosse qui m'est récemment revenue en mémoire à Paris lorsque, donnant rendez-vous à mon épouse dans le jardin de Luxembourg, sans autre précision, nous nous sommes tous deux retrouvés d'instinct au pied de la statue de celle qui est connue au-delà de la Manche sous le nom de Mary Queen of Scots et à Paris sous celui de Marie Stuart, reine de France. Quant à mes liens avec le Liban, ils m'ont été rappelés par le rôle essentiel joué par votre académie dans la création d'une nouvelle Académie libanaise des sciences.
Cette académie a tenu sa séance inaugurale à Paris sur les auspices de l'Académie des sciences avec la participation active de plusieurs de vos membres. Permettez-moi de vous remercier encore une fois pour l'occasion que vous m'avez donnée de renforcer mes liens avec la communauté scientifique française. Merci.
Sir Michael Acca, je vous remets de la part de l'Académie des sciences la médaille d'or de l'Académie. Bien, comme je le disais tout à l'heure, l'émotion m'a fait un peu bousculer le programme. Nous allons procéder à quelque chose d'assez émouvant, profitant de la présence de Madame la Ministre. Il s'agit des Olympiades. Qu'est-ce que sont les Olympiades ? Ce n'est pas la même chose que les concours généraux que vous connaissez. Les Olympiades sont une compétition organisée par les sociétés savantes internationales pour distinguer les meilleurs élèves de première et de terminale. Il existe des Olympiades à l'échelon national et des Olympiades à l'échelon international. Alors, je vais appeler les lauréats par groupe de deux, leur demandant de rejoindre la tribune par l'escalier de gauche, qui est à ma droite, et je présenterai les lauréats à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, qui leur remettra leur médaille. Je précise que la présentation que je vais faire a été en réalité écrite par eux-mêmes ou par leur famille, ce qui, vous verrez, donne un ton inhabituel sous cette coupole. J'appelle donc les lauréats des Olympiades nationales de mathématiques, Nicolas Faurien et Jordan Savario. Alors, Madame la Ministre, je vais vous présenter ces lauréats. Les voilà. Ils sont très beaux. Alors, ils sont très jeunes. Alors, Nicolas Faurien et puis Jordan Savario. Alors, Nicolas Faurien m'a écrit. J'ai 16 ans, j'habite à Châtillon dans les Hauts-de-Seine, bourgade fort sympathique qui offre la tranquillité à deux pas de Paris. J'y habite avec mes parents, une infirmière puéricultrice et un réalisateur audiovisuel avec trois chats. Et mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi et aime aussi les mathématiques. Je suis lycéen en classe de terminale S à l'école La Source à Meudon, où je bénéficie d'une très bonne ambiance ainsi que de professeurs excellents. Toutes les matières m'intéressent, mais j'ai un goût particulier pour les mathématiques. Les professeurs que j'ai eus, tous plus excellents les uns que les autres, y sont sûrement pour quelque chose. Mon actuel professeur Raymond Janet est un homme exceptionnel, un passionné de philosophie et en particulier de Pascal. Il nous enseigne bien plus que les mathématiques, nous fait découvrir leur histoire, nous ouvre à la philosophie et nous fait partager son immense culture, aussi bien mathématique que philosophique, historique et théologique. Comment ne pas réussir quand des gens savent aussi bien transmettre leur passion ? J'ai été un peu long, mais j'ai trouvé cette lettre formidable et on vous en remercie beaucoup. Ce n'est pas fréquent de nos jours d'entendre rendre hommage, comme vous le faites, aux professeurs qui ont beaucoup de mérite.
Nicolas Faurien, je suis très heureuse de vous remettre aujourd'hui ce prix des Olympiades de mathématiques 2011 au nom de l'Académie des sciences.
Alors maintenant, nous avons Jordan Savario. Il m'écrit. Je vis à Aigrefeuille-sur-Maine, près de Nantes, avec mes parents et mes deux frères de 11 et 15 ans. Je suis en internat en classe de terminale sciences, technologies industrielles, génie électrotechnique au lycée Saint-Joseph-la-Jolivrie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Depuis tout petit, j'adore les mathématiques et tout ce qui peut stimuler la logique et la réflexion. J'ai d'ailleurs pratiqué les échecs pendant 6 ans, mais ma véritable passion est le spectacle et la musique que je pratique. Guitare électrique et basse. Depuis l'âge de 6 ans, Je compte vivre de cette passion. Par la suite, je souhaite faire un BTS audiovisuel, option son, avec une licence en musique. Alors j'ai un commentaire à ajouter, ou plutôt Madame la ministre et moi-même avons un commentaire à ajouter, c'est que votre maman nous a signalé un complément qui est intéressant, puisqu'elle nous a dit, quand je lui ai dit « mais comment ça se fait qu'il est aussi bon en mathématiques, comment ça s'est passé ?» Il m'a dit « c'est très simple, quand il avait 3 ans, il s'enfermait dans une pièce et il faisait de puzzles de 100 pièces. » Donc vous avez la solution, vous avez la technique pour créer des génies.
Jordan Savario, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Olympiades de mathématiques au nom du président de l'Académie des sciences. Et je vous signale quand même à toutes fins utiles qu'il existe dans l'université française des doubles diplômes musique-sciences. Voilà.
Je vais appeler Diane Galois-Vong et Jean-François Martin. Alors Diane Galois-Vong cumule en fait. Elle est lauréate des Olympiades nationales de mathématiques et lauréate des Olympiades internationales de mathématiques. Elle est en terminale au lycée Louis-le-Grand. Elle a 17 ans, un frère de 15 ans, un père ingénieur, une mère enseignante. En 2007, elle a fait partie des lauréats du Plumier d'Or, concours de langue française destiné aux élèves de 4e et parrainé par la Marine nationale. Diane a participé en mai aux Olympiades balkaniques en Moldavie, puis en juillet aux Olympiades internationales au Kazakhstan. Elle a obtenu les 2 fois une médaille d'argent. Elle est la première Française à avoir participé aux Olympiades internationales en fin de première et la première Française à obtenir une médaille d'argent à cette épreuve. Diane est également passionnée de voile. Plus tard, elle souhaite faire des mathématiques, sans doute de la recherche. Diane remercie chaleureusement tous les professeurs de Stanislas et Louis-le-Grand et la préparation olympique dont elle a reçu enseignement et conseils avisés. Donc, on va vous remettre votre médaille.
Diane Galois-Wong, je vous remets la médaille des Olympiades nationales et internationales de mathématiques 2011 au nom du président de l'Académie des sciences.
Madame la ministre, elle présente cette semaine au Palais de la Découverte un projet sur les voiles solaires dans le cadre de la finale des Olympiades nationales de physique par équipe. On n'a pas le temps de vous dire ce que sont les voiles solaires, encore que certains d'entre nous le savent, mais enfin, c'est sûrement important. Monsieur Jean-François Martin, vous m'écrivez, ou plutôt ce sont vos parents qui m'écrivent, puisqu'ils disent « Jean-François vient d'avoir 17 ans ». Il est l'aîné d'une fratrie de 4, passionné de musique, piano-accordéon, et de mathématiques, plusieurs fois lauréat du concours Kangourou. Il est issu du collège Charles Munch à Grenoble, puis du Centre national d'enseignement à distance. Il a été 2e prix du concours général en 2010 en mathématiques et il a obtenu 3 médailles d'argent aux Olympiades internationales de mathématiques en 2008, 2009 et 2010. Il est actuellement en classe de mathématiques supérieure au lycée Louis-le-Grand. Son rêve est d'intégrer l'école normale supérieure puis de devenir chercheur en mathématiques. Aujourd'hui, il souhaite rendre hommage particulier à ses professeurs, messieurs Montingon, Flandinet, Guillaume, Borance et Lass, qui lui ont ouvert un horizon magnifique. Grâce à eux, Jean-François a soif des mathématiques à venir. Michael, il a soif des mathématiques à venir. Voilà, on va faire les présentations après. Hein.
Jean-François Martin, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Olympiades internationales de mathématiques au nom du président de l'Académie des sciences.
Nous passons maintenant aux Olympiades de chimie. Et j'appelle Guillaume Fraud et Rémi Monin. Alors, Madame la ministre, je vous présente Guillaume Fraud. qui vient d'une famille d'ingénieurs. Son père est centralien et sa mère a fait les mines de Saint-Étienne. Mon père, c'est lui qui parle, c'est lui qui écrit, a eu quelques contacts avec l'industrie chimique avant de se convertir dans l'éducation. C'est intéressant comme parcours. Généralement, on conseille le contraire, mais enfin bon. J'ai fait un parcours scolaire plutôt bon, oui, en effet, dans les établissements proches de chez moi, avant d'être admis en classe préparatoire physique-chimique au lycée Sainte-Geneviève. La chimie m'a toujours intéressé, d'abord par son côté magique, coloré et ludique, puis par sa capacité à expliquer avec des modèles simples l'organisation et les transformations de la matière. J'ai appris l'existence des Olympiades de la chimie en première, puis je m'y suis inscrit en terminale, sans avoir aucune idée de savoir où je pouvais aller. Je vais préparer cette année les Olympiades internationales de la chimie, avec l'espoir de pouvoir représenter la France à Ankara, lieu des épreuves internationales. Ce sont les vœux que nous formons pour vous.
Guillaume Fraud, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille nationale des Olympiades de chimie 2011 au nom du président de l'Académie des sciences.
Rémi Monin m'écrit. Je suis étudiant en classe préparatoire à Sainte-Geneviève à Versailles, après avoir fait un parcours scolaire scientifique classique. Dernier enfant d'une famille nombreuse à sensibilité plus littéraire que scientifique, mon père est avocat, ma mère juriste, j'ai depuis longtemps été attiré par une orientation dans les lettres classiques, mais c'est finalement les sciences, et en particulier la chimie, qui l'ont emporté. Je vois dans la chimie une science toujours capable de réaliser les projets humains et qui évolue sans cesse. J'espère poursuivre mes études dans une école d'ingénieurs qui prenne en compte la chimie dans sa formation. Rémi Monin.
Rémi Monin, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Olympiades de chimie 2011 au nom du président de l'Académie des sciences.
Alors nous terminons par les Olympiades internationales de chimie, merci beaucoup, les Olympiades internationales. Et j'appelle Baptiste Couet et Rémi Patin. Alors Baptiste Couet, vous m'écrivez, j'habite à Vertoux, une petite ville près de Nantes. Mon père travaille dans le BTP et ma mère a une formation d'infirmière et travaille maintenant dans la relaxation. J'ai un frère de 13 ans et une sœur de 15 ans. Je suis allé au lycée Clémenceau de Nantes, moi aussi, où j'ai été reçu à mon baccalauréat S, spécialité physique-chimie, avec une mention « très bien ». J'ai participé aux Olympiades nationales de chimie en terminale et j'ai fini 4e national. Je suis maintenant en mathématiques supérieures au même lycée. J'ai toujours été passionné par les sciences car la recherche du fonctionnement des choses m'intrigue. J'aimerais poursuivre dans la voie dans laquelle je me suis lancé, en intégrant, si possible, l'École normale supérieure l'année prochaine, afin de pouvoir mener plus tard une carrière de chercheur dans le domaine de la chimie.
Baptiste Couet, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Olympiades internationales de chimie au nom du président de l'Académie des sciences, et je me permets de vous souhaiter un très bon et très heureux anniversaire, parce qu'on me dit que c'est aujourd'hui, et on me dit que vous n'avez que 17 ans. Voilà.
Des anniversaires comme ça, on n'en a pas tous les ans. Hein. Alors, Rémi Patin, vous m'écrivez, mon père est ingénieur, ma mère est professeure de lettres modernes, je suis le cadet de 4 enfants. J'ai eu mon bac S en 2009, puis je suis parti en classe préparatoire de biologie, chimie, physique, sciences de la Terre à Bordeaux, ce qui m'a permis de participer aux Olympiades internationales de chimie l'année dernière. Je suis passionné par toutes les sciences, et notamment les sciences naturelles, comme la botanique.
Rémi Patin, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille des Olympiades internationales de chimie 2011 au nom du président de l'Académie des sciences.
Nous allons suivre le déroulé habituel de cette cérémonie qui consiste à présenter les grands prix de l'Académie des sciences par les secrétaires perpétuels. Alors, je passe la parole à Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de la première division.
La bourse Gentil Bourcard est remise à Karine Weiner. Karine Weiner est docteur en sciences de la Terre et plus particulièrement en paléoclimatologie. Elle est depuis octobre 2009 à terre à l'université de Nice Sophia Antipolis. Elle est passée maître dans l'utilisation des isotopes stables de l'oxygène et du carbone et des radioisotopes uranium-thorium pour l'analyse et la datation des spéléothèmes afin de reconstituer les climats du passé. Elle a su préciser les variations climatiques de l'Europe de l'Ouest au cours de l'avant-dernière glaciation, moins 180 000 ans, moins 145 000 ans, avec un point tous les 40 ans, ce qui entraîne une précision exceptionnelle permettant d'apprécier la variabilité du climat. Son projet de recherche à l'étranger, qui pourra se réaliser grâce au prix qu'elle vient de recevoir, porte sur la datation précise et la reconstitution climatique de plusieurs sites archéologiques en Espagne et au Portugal, occupés au paléolithique moyen il y a environ 30 000 ans, soit par l'homme de Néandertal, soit par l'homme moderne de l'Aurignacien. Peut-être aurons-nous ainsi, grâce à la reconstitution climatique, des éléments nouveaux sur les raisons de l'extinction de l'homme de Néandertal, qui survécut dans cette partie de l'Europe jusqu'à cette date, et dont on ignore encore si sa disparition est liée à un changement climatique, à la diminution du champ magnétique terrestre, ou à sa coexistence, éventuellement conflictuelle, avec l'homme moderne. Karine Weiner.
J'appelle maintenant M. Clément Sanchez, qui va être présenté par Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de la deuxième division.
Le prix de l'Institut français du pétrole est attribué à Clément Sanchez. Clément Sanchez était, jusqu'à il y a quelques jours encore, directeur de recherche au CNRS. Il vient en fait d'être élu tout à fait récemment professeur au Collège de France, où il dirige le laboratoire de chimie de la matière condensée. Clément Sanchez est un des plus grands spécialistes internationaux de la science des matériaux. Il s'est plus particulièrement intéressé aux matériaux hybrides, organiques, inorganiques. Ses travaux, qui lui ont conféré une compétence, une reconnaissance internationale très spéciale, concernent la mise en aérosol de solides poreux dont on peut calibrer la taille et l'acidité. Plus récemment, il s'est intéressé à des matériaux hybrides à structure hiérarchisée. Le point très particulier des travaux de Clément Sanchez concerne les applications, notamment les applications industrielles qu'ils ont reçues au cours de toutes ces années. Ainsi, dans le raffinage du pétrole, Clément Sanchez a montré comment les éolithes pouvaient favoriser la transformation des matières lourdes, des parties lourdes du pétrole, les moins utilisables, comme le bitume, dans des parties, dans des fractions plus légères, plus valorisables, comme l'essence et le gazoil. Plus récemment, il a réalisé des travaux importants en collaboration avec des chercheurs de l'Institut français du pétrole pour mettre en œuvre des aérosols de particules, de catalyseurs mésostructurés de taille calibrée entre 4 et 20 nanomètres. Clément Sanchez.
J'appelle maintenant Emmanuel Rosenchère, présenté par Catherine Bréchignac.
Pour le prix France Télécom. Emmanuel Rosenchère est professeur à l'École Polytechnique et directeur de recherche à l'Office national d'études de recherche aérospatiale et directeur de la branche physique. L'essentiel de l'activité scientifique d'Emmanuel Rosenchère porte sur l'étude des propriétés électriques et optiques des hétérostructures semi-conductrices et de leurs applications. Bien qu'il ait principalement travaillé dans les laboratoires industriels au CNET à Grenoble et au laboratoire central de recherche Thomson-Corbeville, Emmanuel Rosenscher a toujours su se concentrer sur la recherche en amont, sans jamais quitter des yeux le potentiel d'application. C'est le cas, par exemple, des détecteurs à infrarouges, à multiples quantiques, qui ont été une avancée tant au niveau fondamental qu'appliqué. Ils représentent maintenant une filière chez Thales qui permet la réalisation de systèmes de vision nocturne extrêmement performants. Emmanuel Rosenscher.
Le prix René Turpin de cancérologie est décerné à Éric Vivier, présenté par Jean-François Bach.
Le prix René Turpin de cancérologie est attribué à Éric Vivier, professeur des universités, praticien hospitalier, docteur en médecine vétérinaire et directeur du Centre d'immunologie de Marseille-Lumini à Marseille. Éric Vivier a joué un rôle considérable dans notre connaissance des mécanismes par lesquels le système immunitaire inné reconnaît les cellules tumorales afin de pouvoir éventuellement les détruire. Ces travaux concernent plus particulièrement une population de cellules lymphoïdes, les cellules naturelles tueuses, NK pour Natural Killer en anglais, qui sont des cellules douées de la capacité de détruire par un effet cytotoxique certaines cellules tumorales et des cellules infectées par un virus. Ces cellules utilisent des récepteurs, activateurs et inhibiteurs, appelés KIR, dont Éric Vivier a eu le grand mérite, il était un pionnier à ce moment-là dans ce sujet, de décrire les mécanismes de signalisation, c'est-à-dire la transduction du signal de ces récepteurs vers les cellules NK. Les travaux d'Éric Vivier ont des applications potentielles considérables dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques, mais aussi dans l'immunothérapie du cancer, par modulation de la fonction de ces cellules naturelles tueuses. Il l'a montré en particulier en utilisant des anticorps monoclonaux dirigés contre le récepteur KIR. Éric Vivier.
Le prix Louis Bachelier de la Fondation Natixis pour la recherche quantitative est attribué à Rama Comte, présenté par Catherine Bréchignat.
Rama Comte est chercheur au CNRS, au laboratoire de probabilité des méthodes aléatoires Paris 6, Paris 7 et professeur à temps partiel à l'Université de Columbia aux États-Unis. Le champ d'expertise de Rama Comte, mathématicien appliqué, est extrêmement vaste. Il va de l'étude du comportement des agents en interaction et de leurs impacts sur les décisions financières, en passant par les propriétés statistiques des cours jusqu'aux problèmes de calibration de modèles. Il a proposé de nombreuses approches pour les épineux problèmes de calibration des modèles, aboutissant à la mise au point d'algorithmes pour la calibration de processus à saut. Personnalité exceptionnelle, Rama Comte a un rayonnement dans le monde de la finance tout à fait original. Il est reconnu à la fois dans le monde académique et dans le monde professionnel en Europe et aux États-Unis. Il est co-auteur d'un livre réputé, Financial Modeling with Jump Processes. Rama Comte.
Le prix cancérologie de la Fondation Simone et Sino Del Duca est attribué à Olivier Bischoff, présenté par Jean-François Bach.
Olivier Bischoff est chargé de recherche au CNRS à l'Institut Pasteur. L'organisme dispose d'une multitude de mécanismes cellulaires pour se défendre contre les tumeurs. Bien sûr, tout d'abord l'immunité innée, l'immunité adaptative, la réparation de l'ADN, mais aussi des mécanismes permettant de détecter des signaux annonciateurs d'une prolifération cellulaire excessive, conduisant soit à la mort programmée des cellules tumorales, par apoptose, soit à une sénescence accélérée. Olivier Bischoff est un grand spécialiste internationalement reconnu de la relation entre sénescence cellulaire et cancer. Il a montré en particulier que la protéine PML, qui est le partenaire de fusion de l'association de protéines de fusion PML-RARS-alpha dans la leucémie à premier leucite, il a montré que cette protéine PML avait une influence importante sur la sénescence cellulaire, non pas seulement de cellules leucémiques, mais de cellules normales. Fait peut-être encore plus remarquable, Olivier Bischoff a récemment montré que les micro-ARN, les petits ARN, pouvaient jouer un rôle très important dans la sénescence cellulaire qui était associée à l'entrée dans les noyaux de ces micro-ARN. Ces observations extrêmement importantes pourraient déboucher sur de nouveaux traitements. On peut en effet imaginer que l'administration de micro-ARN synthétiques pourrait modifier l'expression des gènes qui commandent la progression du cycle cellulaire. Olivier Bischoff.
Le prix Alcan est décerné à Jean-Frédéric Gerbeau et Tony Lelièvre.
Ce prix est attribué conjointement à deux scientifiques, Jean-Frédéric Gerbeau, directeur de recherche à l'INRIA, et Tony Lelièvre, ingénieur des ponts et chaussées au Centre d'enseignement et de recherche en mathématiques et calcul scientifique de l'École des ponts. Jean-Frédéric Gerbeau et Tony Lelièvre sont deux hydrodynamiciens. Jean-Frédéric Gerbeau travaille sur les égoulements sanguins et plus particulièrement sur les interactions fluide-structure avec des applications en biomédicale. Tony Lelièvre est spécialiste de modélisation des fluides complexes, le béton, la boue, la peinture, le sang aussi éventuellement, avec des contraintes micro-macro. Ils ont joint leurs compétences pour contribuer à la modélisation mathématique et à les simulations numériques des écoulements de métaux liquides en contact avec les surfaces magnétiques et en particulier pour la production industrielle d'aluminium par électrolyse. Leurs briques numériques, dont la qualité n'est plus à démontrer, sont maintenant incorporées dans le code de simulation complet le plus avancé au monde, dont elles constituent la partie la plus critique. Jean-Frédéric Gerbeau et Tony Lelièvre.
Le prix Jaffé de chimie est attribué à Jean-Marie Beau, professeur à l'Université Paris-Sud et directeur d'un laboratoire à l'Institut de chimie et des sciences naturelles à Gif-sur-Yvette. Jean-Marie Beau est à l'étranger aujourd'hui, ne peut pas être parmi nous, mais son collègue Boris Vozeil est là pour recevoir le prix. Jean-Marie Beau est un grand spécialiste des hydrates de carbone, dont il a décrit toute une série de techniques, de stratégies, de synthèses qui ont l'avantage considérable d'être à la fois rapides et relativement faciles, permettant d'accéder de façon simple à des glucides relativement complexes. Les travaux de Jean-Marie Beau ont des applications très importantes en agronomie et dans les sciences de la santé. Jean-Marie Beau, en particulier, grâce aux outils qu'il avait développés, pu étudier les mécanismes par lesquels les facteurs de nodulation décrits par notre confrère Jean Denarier participaient à la croissance des légumineuses. Il a plus précisément synthétisé des analogues très efficaces de ces facteurs de nodulation qui agissent à des doses très basses sur des légumineuses en plein champ. Il a par ailleurs développé des techniques de catalyse séquentielle qui lui ont permis de produire des sucres sélectivement protégés. Jean-Marie Beau. J'aurais dû dire, avant de terminer, que Jean-Marie Beau a reçu également un autre prix qui est donné chaque année traditionnellement au titre de lauréat de l'un des prix de chimie, qui est la médaille Marcelin Berthelot, du nom de Marcelin Berthelot, qui est un ancien secrétaire perpétuel de la Commission des sciences, chimiste bien connu de la fin du 19e siècle.
Le prix Sophie Germain est décerné à Guy Aignard. Guy Aignard est professeur à l'Université Paris-Sud à Orsay, au département de mathématiques. Guy Aignard a effectué ses travaux en théorie des nombres. Sa contribution à la compréhension de la correspondance de Langlands locale et de tout premier plan. Dans un superbe article datant de 1988, qui est un véritable tour de force, Guignard prouve l'existence numérique d'une telle correspondance. Citant un de nos confrères mathématiciens, Guignard est indiscutablement le plus grand expert au monde de la correspondance de Langlands locale sur les corps péadiques. Guignard.
Le prix Philippe Guy est attribué à Hubert Le Bozec, présenté par Jean-François Bach.
Hubert Le Bozec est directeur de recherche au CNRS à l'Université de Rennes 1. Parmi ses nombreux travaux, il faut citer ses études physiques des composés organométalliques du ruthénium. Il faut aussi indiquer qu'il a conçu et fabriqué des nouvelles familles de chromophores qui représentent en quelque sorte des briques pour la construction de molécules dipolaires et octupolaires. Il a produit d'autres molécules très importantes, entre autres des métallodendrimères et des polymères photo-isomériques qui jouent un rôle très important en donnant un signal de seconde harmonique. Toutes ces activités ont des applications particulièrement importantes en optique non linéaire. Hubert Le Bozec.
Le prix Servent qui est décerné à Michel Ledoux. Michel Ledoux est mathématicien, professeur à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Le remarquable ensemble de travaux que Michel Ledoux a développé à partir des années 90 mêle probabilité, analyse et géométrie riemannienne. Il a revisité une quantité étonnante de théorèmes classiques importants, proposant à chaque fois des démonstrations élémentaires et des éclairages nouveaux. Son style propre, allié au souci constant de simplifier, synthétiser et comprendre en profondeur, explique pourquoi ces travaux ont été si féconds et qu'ils ont considérablement influencé nombre de mathématiciens. Michel Ledoux.
Maintenant, nous avons le prix Doisteau-Émile Butet pour Philippe Boulanger, présenté par Jean-François Bach.
Philippe Boulanger est un grand spécialiste de la vulgarisation scientifique dans toutes ses composantes. Après avoir fait des études et obtenu le diplôme de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, Philippe Boulanger part aux États-Unis pour faire une thèse à Boulder, dans le Colorado, l'État de Colorado, sur la physique des plasmas. De retour en France, il s'intéresse dans un premier temps au problème des brevets. Puis il crée en 1977 la revue Pour la Science, qui est l'équivalent du Scientific American que vous connaissez tous. Il en est d'abord le rédacteur en chef, puis le directeur. Mais au-delà de cette activité, Philippe Boulanger s'intéresse à de nombreux autres domaines de la vulgarisation scientifique. Il crée des expositions scientifiques, il fait des émissions de radio, sont du très connu, notamment avec Émile Noël. Il fait des émissions de télévision, notamment l'émission Archimède sur Arte, qui a reçu plus de 600 000 spectateurs pendant de très nombreuses années. Il écrit des livres, il écrit des articles dans la presse suisse, où il a beaucoup travaillé en Suisse, mais également la presse américaine et la presse française. C'est donc, pour nous tous, un maître de la vulgarisation auquel nous sommes particulièrement heureux de rendre hommage aujourd'hui. Philippe Boulanger.
Alors les prix thématiques qui vont suivre, les lauréats vont être appelés et ils sont invités à rester à leur place, mais ils prendront livraison de, si j'ose dire, de leur médaille ultérieurement pour des appariteurs qui leur montreront le chemin. Donc, quand j'appelle votre nom, vous vous levez et puis vous restez à votre place. Alors, les premiers prix dont nous parlons sont les prix de mathématiques, en particulier le prix Paul Doisteau-Émile Blutet, qui est attribué à Yves André.
Yves André est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, département de mathématiques et applications à l'École normale supérieure de Paris. Yves André est animé par le souci de comprendre les idées générales et la philosophie cachée derrière la complexité des problèmes. Il est l'auteur de plusieurs livres remarquables, dont une superbe introduction à la théorie des motifs. Avec une élégance rare, il apporte ses preuves des conjectures de Crewe sur la quasi-unipotence des modules à connexion avec structure de Frobenius sur l'anneau de Robin, sur la conjoncture de Dvorak, sur la croissance logarithmique des solutions d'équations différentielles PADIC, et sur la conjoncture de Malgrange, sur la variation de l'irrégularité dans les familles analytiques d'équations différentielles linéaires à singularité méromorphe. Yves André.
Le prix Lecomte est attribué à David Lanz.
David Lanz est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, département de mathématiques et applications à l'École normale supérieure de Paris. David Lanz a obtenu des résultats remarquables sur le système décrivant la propagation des ondes à la surface d'un liquide. Il a démontré l'existence de solutions sur de grands intervalles de temps et a donné les premières justifications mathématiques rigoureuses de plusieurs modèles simplifiés utilisés depuis fort longtemps en mécanique des fluides. David Lanz.
Le prix Michel Montpetit est attribué à Mila Nikolova.
Nous sommes maintenant dans les prix des sciences mécaniques et informatiques. Mila Nikolova est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Centre de mathématiques et de leurs applications à l'École normale supérieure de Cachan. Mila Nikolova est récompensée pour l'originalité et la profondeur de ses recherches en traitement mathématique de l'image et dans la résolution de certains problèmes inverses. Elle a inauguré et mené à bien une analyse systématique du lien entre le choix d'une fonctionnelle régularisée et les propriétés saillantes de la solution du problème variationnel correspondant. Ces résultats fournissent de nouveaux et puissants outils de modélisation. Mila Nikolova a prouvé qu'il convient d'utiliser des fonctionnelles non différenciables ou non convexes dans les approches variationnelles. Mila Nikolova.
Le prix Paul Doisteau-Émile Blutet est attribué à Nicolas Triantafilidis.
Nicolas Triantafilidis est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au laboratoire de mécanique des solides et département de mécanique à l'École polytechnique à Palaiseau. Il est le spécialiste mondial des relations entre instabilité microscopique et macroscopique dans les matériaux hétérogènes. Ses travaux ont permis de classifier les différents types d'instabilité qui peuvent survenir dans ces matériaux et, grâce à eux, il est maintenant possible d'en prévoir la première apparition. Nicolas Triantafilidis.
Le prix Edmond Brun est attribué à Richard Sorel.
Richard Sorel est professeur à l'Université de Provence, Institut universitaire des systèmes thermiques industriels à Marseille. Richard Sorel a contribué de façon marquante au développement de schémas numériques permettant la prise en compte d'interfaces matérielles entre milieux fluides et au traitement numérique de problèmes hyperboliques multifluides. Ses contributions et ses compétences sont essentielles à la résolution de nombreux problèmes technologiques rencontrés en propulsion spatiale et astronautique. Richard Sorel.
Prix Ernest Deschel, attribué à Jacques Desruy.
Jacques Desruy est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur du laboratoire Sol, Solide, Structure, Risque de Grenoble. Jacques Desruy est un spécialiste de la localisation de la déformation dans les géomatériaux, dont la compréhension est essentielle dans les domaines de l'environnement et de l'énergie. Il a été l'un des pionniers dans l'utilisation de mesures de champ en mécanique des solides, en stéréophotogrammétrie et en tomographie. Il a été à l'origine du dispositif de tomographie développé récemment à Grenoble avec ses collaborateurs, permettant ainsi à son équipe et à son laboratoire d'être à la pointe de l'expérimentation dans le domaine. Jacques Desruy.
Le prix Blaise Pascal du Gamismail est attribué à Emmanuel Grenier.
Emmanuel Grenier est professeur à l'École normale supérieure de Lyon, unité de mathématiques pures et appliquées. Emmanuel Grenier a obtenu les premiers résultats sur la limite quasi-neutre du système de Vlasov-Poisson. Ses travaux sur les équations de Navier-Stokes lui ont aussi permis de justifier mathématiquement des asymptotiques pour les couches d'Ekman. Tout récemment, ses travaux sur la propagation des ondes ioniques donnent une nouvelle lumière mathématique aux accidents vasculaires cérébraux. Emmanuel Grenier.
Passons maintenant au prix de chimie. Le prix Clavel-Lespiot est attribué à Marc Taillefer.
Marc Taillefer est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique Institut Charles Guérard de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Marc Taillefer a développé de nouvelles réactions catalysées par des sels de cuivre ou de fer utilisées en quantité très faible, permettant la formation de nouvelles liaisons carbone-azote, carbone-oxygène et carbone-carbone dans des conditions très douces. Ces réactions ont un grand potentiel industriel. Marc Taillefer a pu montrer que différents hétérocycles azotés réagissent avec des bromures et iodures aromatiques dans des conditions bien plus douces que celles décrites dans la littérature. Cette méthode a pu être étendue à la préparation d'éthers biaryliques non symétriques qui sont souvent des cibles dans les sciences de la vie et dans le domaine des matériaux. Marc Taillefer.
Le prix Jean Protas est attribué à Olivier Pérez.
Olivier Pérez, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. Très jeune, Olivier Pérez est déjà reconnu au niveau international comme un expert de la cristallographie des superespaces. Cette nouvelle branche de la cristallographie s'intéresse à la structure des matériaux décrite par une cristallographie de dimension supérieure à 3. Cette cristallographie multidimensionnelle, extension naturelle de la cristallographie classique, devient une science incontournable pouvant apporter aux chimistes et aux physiciens du solide, aussi bien qu'aux théoriciens, les clés pour isoler et comprendre les matériaux du futur. Olivier Pérez.
Nous passons maintenant au prix de biologie humaine et sciences médicales, avec le prix Mémin Pelletier, qui est attribué à Jean-Pierre Hugo, et c'est son épouse, je crois, qui viendra prendre ce prix, parce qu'il est absent.
Jean-Pierre Hugo est professeur de pédiatrie à l'Université Paris Diderot et praticien hospitalier dans le service de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Il a localisé puis identifié le premier gène de susceptibilité à la maladie de Crohn, Node 2, ouvrant ainsi la voie vers une compréhension de la maladie. Node 2 est un gène important dans l'immunité innée et la réponse inflammatoire, dont le rôle et les mécanismes ont été totalement repensés ces dernières années. Jean-Pierre Hugo cherche actuellement à comprendre comment la dysfonction de Node 2 peut produire la maladie par des approches à la fois analytiques, modèles cellulaires et animaux, et synthétiques, épidémiologie et modélisation. Les travaux de Jean-Pierre Hugo ont révolutionné la compréhension de la génétique des maladies inflammatoires, de l'intestin, et plus particulièrement de la maladie de Crohn, en ouvrant à terme d'immenses perspectives thérapeutiques. Jean-Pierre Hugo.
Le prix Roi Vaukoulou est attribué à Ziad Mala.
Ziad Mala est directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, unité 970 de Paris Centre de recherche cardiovasculaire à l'hôpital Lariboisière à Paris. Les travaux du groupe de Ziad Mala ont permis d'identifier des réponses immunitaires jouant un rôle protecteur majeur contre le développement et la progression des lésions athéromateuses et ouvrent la voie à des approches thérapeutiques nouvelles dans cette maladie. Ziad Mala a également identifié de nouveaux biomarqueurs du risque cardiovasculaire permettant une meilleure stratification et à terme une meilleure prise en charge des patients à risque d'événements cardiovasculaires graves. Certains de ces biomarqueurs sont actuellement en développement pour une utilisation en clinique. Ils ouvrent la voie au développement de stratégies innovantes de type vaccinal contre l'athérosclérose basées sur la promotion de lymphocytes T, régulateur spécifique d'antigène de plaques d'athérosclérose. Ziad Mala.
Le prix Gaston Rousseau est attribué à Bertrand Fontaine.
Bertrand Fontaine est professeur des universités, praticien hospitalier à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Bertrand Fontaine a été à l'origine du concept des canalopathies en découvrant les premières mutations des gènes codants pour les canaux de sodium et de potassium impliqués dans les paralysies périodiques hypokaliémiques. Il a transféré ses découvertes à la prise en charge des patients dans le cadre de travaux de recherche clinique de haut niveau. Il est aussi l'auteur de travaux de renommée internationale dans le domaine des paraplégies spastiques héréditaires et de la génétique de la sclérose en plaques. Bertrand Fontaine a en particulier contribué à la localisation et à l'identification des trois premiers gènes impliqués dans ces affections. Bertrand Fontaine.
Le prix d'Andrimon Bénicourt est attribué à Patrick Balaguer.
Patrick Balaguer est chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, unité 540, endocrinologie moléculaire et cellulaire des cancers à Montpellier. Patrick Balaguer a effectué ses recherches sur des perturbateurs endocriniens de l'environnement, capable d'interférer avec le fonctionnement de certaines hormones stéroïdes. Ces résultats, confrontés aux études épidémiologiques, peuvent à terme aider à réduire l'incidence des cancers les plus fréquents, ceux du sein et ceux de la prostate, en limitant l'utilisation des composés les plus potentiellement dangereux et en proposant des composés alternatifs. Patrick Balaguer a ainsi décrit des effets parfois inattendus sur divers récepteurs nucléaires de molécules définies, pesticides, cosmétiques, constituants de plastique, etc., mais aussi d'échantillons environnementaux ou alimentaires. Récemment, il s'est concentré sur le mécanisme moléculaire d'action du triméthyléthin, un agent anti-fouling qui s'est accumulé dans le milieu aquatique et entré dans la chaîne alimentaire par les mollusques marins et les poissons. Patrick Balaguer.
Enfin, dernier prix de biologie humaine et sciences médicales, la médaille Louis Pasteur est attribué à Marc Lecuit.
Marc Lecuit est professeur à l'Université Paris-Descartes. Il est praticien hospitalier à l'hôpital Necker Enfants Malades et responsable du groupe de recherche INSERM numéro 604 à l'Institut Pasteur. Il est aussi directeur du Centre national de référence des Listeria. Marc Lecuit a caractérisé les molécules impliquées dans le franchissement des barrières intestinales et placentaires par la bactérie Listeria. Il a aussi été le premier à démontrer la transmission du virus du chikungunya de la mère à l'enfant et à relier la sévérité de la maladie néonatale à la capacité du virus à atteindre le système nerveux central et à induire des symptômes neurologiques. Son équipe a également développé un modèle murin du chikungunya qui lui a permis d'étudier la réponse de l'hôte à cette infection et de mettre au point le premier traitement préventif et curatif de la maladie. Marc Lecuit.
Enfin, dans le cadre des prix généraux, il y a le prix de Madame Claude Berthaud, qui est attribué à Jacqueline Bergeron.
Jacqueline Bergeron est directeur émérite de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Jacqueline Bergeron est une astrophysicienne de très grande valeur, ayant joué un rôle considérable dans l'astrophysique française et internationale. Elle a été secrétaire générale de l'Union astronomique internationale. Ses contributions les plus remarquables concernent les observations de la matière intergalactique et leur contribution à la formation et l'évolution des galaxies. Jacqueline Bergeron.
Ce prix termine la liste des prix que nous avions à distribuer aujourd'hui. À accorder aujourd'hui, et suivant la tradition, il va y avoir maintenant une lecture qui va être donnée par Christian Amator de l'Académie des sciences. Cette lecture s'appelle « Science, société et éducation ». Christian Amator.
Madame le ministre, monsieur le ministre, qui ne me regarde pas. Monsieur le chancelier, mesdames, messieurs les secrétaires perpétuels, messieurs les présidents, chers confrères, mesdames, messieurs, n'ayez crainte, même si cette année marque une année internationale de la chimie, je ne m'en vais pas me livrer à un panégyrique ni à une défense de ma discipline. Même si elle prête plus souvent le flanc que les autres sciences de notre académie à des attaques d'autant plus injuste et d'autant plus grave qu'elle témoigne d'une méconnaissance irresponsable quant à ses apports à notre qualité de vie, la méfiance que nos sociétés entretiennent vis-à-vis de la chimie a des racines bien plus profondes. Au XIXe siècle, la société, emportée par sa révolution industrielle, s'était forgée une représentation positive de la science dont elle attendait une libération tant des contraintes matérielles que des maladies. La science et la technologie démontraient chaque jour leur capacité à restituer aux hommes les clés du paradis perdu, en prévenant la fatigue du travail et en éliminant les dangers exogènes. Dans l'esprit des populations, la science, souvent à l'insu des savants qui étaient des croyants convaincus, se substituait progressivement à la religion en apportant continuellement des preuves pratiques de son exactitude bienveillante. Les arguties qui avaient paralysé le monde scientifique médiéval s'effaçaient ainsi derrière les vérités infalsifiables révélées par les savants. Les clubs et les salons de science foisonnaient à l'instar des salons littéraires. Ils étaient fréquentés par tous, âge et classe confondus. Ils venaient écouter les jeunes savants parler des découvertes de leurs aînés et initier un public confiant aux pratiques de leur science moderne. Pour s'en convaincre, il suffit de penser au jeune Michael Faraday, alors simple apprenti relieur, qui recueillit les lectures de Humphrey Davy afin de les lui offrir assemblées dans un somptueux ouvrage relié. Cet enthousiasme pour une science généreuse et prolifique s'est poursuivi jusque vers le milieu du XXe siècle. Par exemple, le salon que tenait Jean Perrin chaque semaine était fréquenté par les grands artistes, écrivains, philosophes et politiques de son époque. Ces salons finirent par n'être réservés qu'à une certaine élite. Mais les journaux, y compris les plus populaires, offraient à leurs lecteurs des articles vulgarisés de très bonne qualité scientifique portant sur les grands débats de l'époque, détaillant et expliquant les grandes découvertes, dressant le portrait de grands scientifiques et de leur rapport à la nation, comme par exemple un superbe article dans l'illustration au sujet de Gaston Julia, et cela bien avant que la force des images de Mandelbrot puisse convaincre les gens de la beauté des fractales. Ces articles, dont la qualité est rarement atteinte par la presse d'aujourd'hui, retranscrivaient, pardon, Monsieur Boulanger, retranscrivaient peut-être de manière partisane, mais en tout cas fidèle, les thèses qui s'affrontaient au sein même de notre institut. Il suffit de penser au combat de Louis Pasteur contre la génération spontanée sur les manières de juguler la maladie des vers à soie ou enfin sur la vaccination. Ces débats ne choquaient pas un public bien informé, mais le passionnait. Bien au contraire, ils rendaient compte de la qualité même qui définit la science par rapport aux autres arts humains, à savoir qu'une opinion se doit de rester une hypothèse tant qu'elle n'est pas vérifiée dans chacun de ses aspects et de ses conséquences. Le doute se doit de persister et de ne céder qu'aux preuves. On est bien loin de la publicité biaisée donnée actuellement au débat sur le climat où certains journalistes s'instituant en théologiens modernes fustigent tel ou tel, comme on le faisait jadis, des hérétiques, de peur sans doute qu'ils attirent des foudres apocalyptiques sur la planète par la simple expression de leurs doutes. Il est vrai que la science était alors une affaire de fierté nationale et de compétition, avec des conséquences immédiates sur la qualité de vie des contemporains et sur les économies des pays. Humphrey Davy, invité par notre académie en plein blocus, dès son arrivée à Paris, grâce à un sauf-conduit personnel de Napoléon, se lançait ainsi dans sa chambre d'hôtel dans une course effrénée afin d'isoler et d'identifier l'iode avant ses collègues chimistes français. De même, Pasteur considérait et le faisait savoir haut et clair que ses découvertes était une revanche de la France sur la Prusse qui venait de l'humilier militairement. Cet engouement de la société pour la science incluait même des sujets extrêmement difficiles à comprendre, y compris par les meilleurs savants. Il suffit de penser au boom médiatique et au véritable enthousiasme populaire pour Einstein, qui suivirent la confirmation par Eddington lors de l'éclipse de 1919 de sa prédiction sur la courbure de la lumière par la gravitation du Soleil. Pourtant, seul un facteur 2 séparait cette prédiction de celle fondée sur la mécanique newtonienne. Que cette courbure soit in fine à peu près négligeable pour tout un chacun n'en diminuait aucunement l'importance. Disposer d'une théorie scientifique, sans doute incompréhensible pour la plupart, mais validée par les faits, suffisait à démontrer la qualité prométhéenne de ces savants. Les populations percevaient immédiatement l'importance de la science et de ses avancées, et cela à tous les niveaux, depuis les plus humbles jusqu'au milieu politique, artistique et intellectuel. La beauté et l'utilité de ces résultats étaient acquises par tous, d'abord à travers les leçons de choses de l'école élémentaire, puis par la presse et les magazines populaires, et même par les bandes dessinées lorsque j'étais enfant. Son apprentissage était bien entendu considéré comme difficile et réclamant un effort constant, comme l'écrivait Louis Pasteur dans ses conseils au petit berger qu'il sauva de la rage. Cependant, les élèves étaient d'autant mieux préparés à cet effort que beaucoup venaient de milieux où l'effort était normal et souvent bien plus éprouvant pour leurs parents. Les familles voyaient dans ce sacrifice consenti tout aussi bien un ascenseur social pour leurs enfants qu'un devoir dû au maître d'école, ces hussards noirs de la République, représentant accessibles des valeurs de la nation et dignes d'être émulés. Bien que les Trente glorieuses aient retardé la crise de confiance que connaissent aujourd'hui nos sociétés vis-à-vis de leur science, Einstein en avait pressenti la survenue dès le début des années 30. S'adressant en 1931 aux étudiants de Caltech et préfigurant l'angoisse de Chaplin dans les temps modernes, il les encourageait, lorsqu'ils se plongeaient dans leurs équations et leurs diagrammes, à se sentir tout aussi concernés que les progrès de la science fournissent le moyen d'asservir les humains aux machines. Hermann Hesse, dans son jeu des perles de verre, adressait lui aussi, dès 1943, une autre mise en garde, en stigmatisant à travers l'histoire et la détresse du magistère ludit Joseph Vallée les dangers d'une dérive darwinienne grandissante entre le monde de la connaissance et celui de la société, soumis l'un et l'autre à leur propre pression évolutionniste. Le souvenir effrayant des guerres et de leurs armes modernes, si destructrices, les crises énergétiques accentuées par l'émergence industrielle des acteurs asiatiques, et surtout la prise de conscience que l'environnement n'était plus capable d'assimiler sans en être gravement affecté toutes les conséquences de nos gaspillages économiques, ont cristallisé les conditions de ce divorce. De manière paradoxale, il survient dans nos sociétés occidentales au moment même où elles devraient comprendre, comme à l'époque de Pasteur, que seule la science peut leur fournir les moyens de surmonter ces crises. Au contraire, la science est tenue comme grande responsable de la destruction d'un mode de vie qui n'a jamais existé, il est entièrement idéalisé et d'une nature mythique. Nous savons bien que la science n'est pas en cause, mais elle a fourni par les nouveaux savoirs et les nouvelles technologies dont elle a doté nos sociétés les outils d'une course anarchique et irresponsable fondée uniquement sur les profits à court terme. Il n'en reste pas moins que la société s'est progressivement laissée séduire par l'idée qu'il fallait se défier de ces modernes prométhées. Les applications de la science inondent néanmoins de plus en plus rapidement notre vie jusque dans ses aspects de tous les jours. Cependant, elles ont fini par atteindre de tels niveaux de complexité qu'elles masquent entièrement la science qui y a présidé. Les applications elles-mêmes sont devenues transparentes pour ne devenir que des boîtes noires, magiques et oniriques, capables d'intercéder pour nous avec un monde immatériel. Une récente publicité le rappelle bien à propos. Vous en avez rêvé, Sony l'a fait. La société, légitimement, se sent alors en droit de rêver et d'en demander toujours plus. Elle se trouve frustrée dès que la science ne peut pas être au rendez-vous de ses désirs. Ne comprenant plus que la science a ses propres limites, elle retrouve même spontanément des comportements collectifs qu'on pensait oubliés. Il suffit de penser aux marches propitiatoires que la Californie a connues pour implorer la mise au point d'un vaccin contre le sida. Et le principe même du Téléthon est-il si différent par certains de ses aspects ? Nos sociétés modernes se retrouvent ainsi tiraillées entre deux attitudes contradictoires vis-à-vis de la science. L'une de défiance et même de peur de son potentiel de destruction, l'autre d'invocation de son pouvoir de création. La science se retrouve en quelque sorte parée de tous les attributs d'une déité laïque. Ses voies sont impénétrables comme il se doit pour le divin et l'on se méfie tout autant de ces chamans modernes qu'on les respecte. Cependant, la société sait bien qu'au contraire des dieux, la science est tout entière dans les mains des hommes. Elle peut et doit donc être contrôlée, canalisée, encadrée. Cela serait équitable si ces limites n'étaient pas en partie imposées aux corps politiques sous la contrainte de gourous médiatiques compensant leur manque de compétences par des propos démagogiques qui distillent la peur et induisent une crainte du progrès. Est-on en fait si loin aujourd'hui des prêches de Pierre l'Ermite qui entraîna dans son sillage des milliers de pèlerins encadrés par trop peu de chevaliers pour une croisade finalement suicidaire ? On arrive ainsi à la situation paradoxale où, quoi que l'on attende de plus en plus de la science, on lui lie les mains. Il faut plus d'énergie, mais il ne faut pas polluer. Il faut plus de nourriture pour nourrir de plus en plus d'hommes, mais uniquement avec des moyens pré-industriels et sans OGM. Il faut pouvoir tout soigner, mais sans aucun effet néfaste, ni chez les malades, ni chez les animaux. Cependant, personne n'évalue les conséquences de ces précautions. Je ne peux résister à rappeler le cas du DDT, qui a été banni suite à une campagne orchestrée aux États-Unis à partir de quelques cas douteux de tératogénie. Et nous savons pourtant que son interdiction entraîne chaque année la mort de 2 millions de victimes du paludisme. L'époque est donc révolue où les risques étaient perçus comme exogènes et la science comme le seul moyen de les éliminer. La science, allons jusqu'à dire le savoir scientifique, loin de libérer l'humanité, semble être devenue, à l'image du diable de Faust cité par notre président, une puissance pernicieuse. Les médias regorgent de prophéties sur les OGM, les changements climatiques, les nanomatériaux, sur le danger de créer dans les entrailles de nos accélérateurs un trou noir destiné à engloutir la Terre, pour n'en citer que quelques-unes. Le ridicule du propos ne nuit pas. Le cas de la chimie est exemplaire, alors que grâce à elle, tout au moins dans nos sociétés, nous vivons plus longtemps, que nous sommes soumis de plus en plus tard aux vicissitudes de la vieillesse, que nous mangeons à notre faim pour la première fois, l'argument selon lequel la chimie détraque nos corps circule facilement. De même que dire d'une agriculture biologique, dont on sait par expérience que si ces champs n'étaient pas entourés de terre chimiquement, traités chimiquement contre les insectes, elle ranimerait même dans notre pays le spectre des grandes famines. Si donc notre communauté ne s'est pas engagée elle-même à la fois un véritable dialogue avec la société et une réflexion éthique sur ses propres travaux et la puissance qu'ils engendrent, ce climat de méfiance ne peut que s'amplifier et conduire inéluctablement à un désastreux rejet de la science. Or, s'il est très facile de désamorcer nos systèmes d'éducation, plusieurs dizaines d'années d'efforts continus et d'incitations fortes seront nécessaires pour les réamorcer. Il ne s'agit pas là d'une crainte gratuite. Nous le voyons en vraie grandeur aujourd'hui en Chine, en Inde ou au Brésil. Notre culture occidentale a d'ailleurs connu plusieurs désamorçages de ce type. Lorsque Rome conquiert la Grèce, elle y impose son système économique fondé sur l'esclavage et affiche son mépris du savoir grec. Le grand courant scientifique hellénistique, né de l'intégration des connaissances du fait du brassage culturel permis par les conquêtes d'Alexandre, se retrouve réduit de telle sorte que les machines de Hiéron ou les vis d'Archimède ne deviennent que des gadgets dans les villas romaines ou que les manuscrits mathématiques que plus personne ne pouvait lire disparaissent par faute d'être copiés. Rappelons-nous pourtant que la fameuse bibliothèque d'Alexandrie n'était pas tant une bibliothèque dans son acceptation moderne mais tout aussi bien déjà un véritable lieu d'échange et de recherche où venaient se côtoyer directement ou par manuscrits interposés les plus grands scientifiques du monde de l'époque. On nous dira bien sûr que les États-Unis connaissent depuis plus longtemps que nous une des affections populaires de la science, tout en restant le pays de référence pour les avancées scientifiques. Mais ne nous y trompons pas. Leur succès est principalement dû à une culture qui favorise une association extraordinaire entre la recherche publique et les entreprises. Cependant, cette dynamique exceptionnelle puise l'essentiel de ses forces opérationnelles parmi les jeunes scientifiques formés ailleurs dans le monde et attirés par ce rayonnement qu'eux-mêmes entretiennent. En effet, comme bien compris la Chine, l'Inde, le Brésil, les batailles économiques modernes commencent à se gagner à l'école. Au contraire des vagues récurrentes de créationnisme ou de New Age qui touchent régulièrement notre Rome moderne témoignent du danger de négliger l'enseignement des sciences à l'école. L'école est primordiale car elle est bien entendu le commencement de la double relation de l'élève à l'enseignement et au monde qui les entoure, mais aussi car tous les enfants possèdent naturellement une passion et une capacité d'interrogation tout aussi continuelle qu'infinie. À l'école élémentaire et lors des premières années de collège, l'on peut donc s'appuyer sur cette demande émotionnelle et affective pour les aider à construire leurs propres compétences et à développer leur première représentation cohérente et éthique du monde. La démarche d'investigation scientifique les y aide et les passionne dès qu'ils peuvent en être un des acteurs. Les succès de la main à la pâte, chers à notre académie, sont là pour le prouver, comme ceux des expériences hands-on aux États-Unis ou le Baby Lab de la ministre académicienne Wei Yu à Nanjing, pour ne citer que deux opérations parmi une cinquantaine similaires associées et encadrées par notre délégation à l'éducation et à la formation. Bien sûr, beaucoup de ces enfants ne deviendront pas scientifiques et ce n'est aucunement là le but. Cependant, savoir structurer puis coucher par écrit un raisonnement scientifique passe par une maîtrise sémantique de la langue, tout comme accéder à l'information, la filtrer et se l'approprier nécessite de savoir comprendre en lisant. De même, si formuler des hypothèses et les tester par l'expérience pour en éprouver la solidité et éventuellement les aménager constitue une démarche intrinsèque de la science, il est tout aussi pertinent que l'ensemble des futurs citoyens puissent l'acquérir. Cela seul peut leur conférer dès le plus jeune âge le besoin d'évaluer la validité des faits auxquels ils seront soumis, la tolérance vis-à-vis des opinions des autres tant qu'une question reste ouverte, tout aussi bien qu'une éthique et une honnêteté rigoureuse dans la conduite de leur propre raisonnement. Nous observons malheureusement aujourd'hui les conséquences du contraire dans les pays où les écoles religieuses dogmatiques habituent l'enfant à ne plus penser de manière critique et autonome. Il en est de même dans plusieurs pays d'Afrique où la transmission des connaissances tribales des anciens fait obstacle à tout changement et entretient une suspicion irrationnelle persistante par rapport à la modernité. Ces spectres ne sont pourtant pas si éloignés de nous et permettez à un Français de première génération issu d'une pauvre campagne sicilienne qui doit au hussard noir de la République de pouvoir vous parler aujourd'hui depuis ce perchoir, de vous rappeler le mot de Hugo. L'ouverture d'une école ferme une prison. Rappelons-nous-en lorsque nous observons le désastre et le gâchis de nos banlieues. L'éducation à la science, seule garante d'un développement global pour nos sociétés nanties et encore plus pour celles qui émergent, ne peut donc s'appuyer que sur un triptyque. Permettre à tous de comprendre les enjeux auxquels ils sont et seront confrontés, en favorisant un retour de la science dans l'ensemble des médias, y compris les plus populaires et les plus modernes. À l'école et au collège, généraliser une éducation fondée sur la participation critique des enfants et sur l'expérience, afin d'inculquer à tous les grands principes de la démarche scientifique et de sa rigueur. Enfin, à l'université, pour la bien plus faible fraction de ceux d'entre eux qui auront témoigné de leurs dons et de leurs désirs, délivrer sans oublier l'éthique, l'éducation scientifique approfondie qui leur permettra, selon leurs aptitudes et leurs vocations, de s'affirmer dans l'un des magnifiques métiers et arts de la science. Je vous remercie.
C'était Christian Amator de l'Académie des sciences qui concluait par son discours la deuxième partie de remise solennelle des Grands Prix et Prix thématiques 2010 de l'Académie des sciences, une cérémonie qui se déroulait le 25 janvier 2011 à l'Institut de France. Retrouvez sur le site de l'Académie des sciences les portraits des lauréats et restez à l'écoute de Canal Académie en téléchargeant dès maintenant nos émissions en compagnie des académiciens tels que Catherine Bréchignac, Jean-François Bach, Alain Carpentier, Philippe Taquet ou encore Christian Amator. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.